Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je reçois au micro d'un jour dans l'histoire Jean-Louis Thiériot. Jean-Louis Thiériot, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes venu à plusieurs reprises au micro de Canal Académie.
Et toujours avec le même plaisir.
Vous êtes venu nous parler de François Ferdinand d'Autriche, mais également de Margaret Thatcher. Et vous venez de publier aux éditions Perrin une biographie de Stauffenberg. Alors pour nos auditeurs qui ne le savent pas, Stauffenberg est un personnage, alors malheureusement méconnu en France, que nous allons nous employer à présenter. C'est tout simplement la tête de la conjuration du 20 juillet 1944, qui est la tentative d'attentat, malheureusement qui a été un échec, contre Hitler. Alors, ma première question, Jean-Louis, sera, ma foi, assez simple, j'allais dire j'en aurai deux. Pourquoi d'abord ce sujet? Qu'est-ce qui vous a amené, vous, germaniste, à s'intéresser à ce sujet? Mais pourquoi ce personnage est-il tant méconnu en France?
Alors, le fait qu'il soit méconnu en France est assez facile à comprendre. L'historiographie française et l'opinion française est marquée par une image du résistant qui est par définition de gauche progressiste et la propagande communiste du parti des 100 000 fusillés y a largement contribué. Or, Stauffenberg est tout le contraire. Il est conservateur, c'est un militaire, c'est un aristocrate, c'est un chrétien. Bref, tout le contraire de l'image qu'on se fait de la résistance en France. Et je pense qu'il dérange un certain nombre d'habitudes du conformisme intellectuel, ce qui fait effectivement qu'il n'y a eu aucune biographie sur lui publiée en France, à l'exception d'une traduction d'une biographie allemande en 1966. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi de m'intéresser à ce personnage? C'est une rencontre de hasard et de circonstances présentes. Le hasard, c'est que j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de rencontrer des descendants de familles ayant participé au coup d'État, les Fink von Finkenstein, les Boeslager en particulier. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont parlé de ce coup d'État. Je me suis dit, pour un germaniste, pour un historien, c'est un sujet passionnant. Il est évident qu'avec la sortie du film Valkyrie dans les différentes salles de cinéma européens, le sujet prenait plus d'actualité et la famille de Stauffenberg, en particulier un de ses fils, Berthold, m'en a parlé et souhaitait que des livres aussi sérieux que possible, et j'ai essayé de l'être au maximum, soient publiés sur le sujet.
Alors, ce n'est pas le premier film sur le sujet. Il y a eu Le complot pour tuer Hitler, un film en 2004 de David McNabb, ou bien encore Le Stauffenberg, un film de 2004 avec Sébastien Corr, qu'on a revu après dans le fameux film La vie des autres. Et je ne peux que mentionner notre partenaire, Les Figaro hors série, qui publie donc un numéro spécial sur le sujet.
Alors, auquel ils ont d'ailleurs eu l'amabilité de me faire contribuer.
Voilà. Alors, vous dites qu'il a des origines toutes différentes, j'allais dire des origines classiques telles qu'elles ont été présentées dans le monde politiquement correct sur la résistance. Quelles sont précisément ses origines?
Son origine est une famille de ce qu'on appelle en Allemagne la Uradel, c'est l'équivalent en France de la noblesse immémoriale, famille de Souabes qui a mené une grande carrière au service soit des princes électeurs, soit de la famille de Bavière ou de Württemberg. Dans les années qui précèdent la naissance de Stauffenberg, son père Alfred, après un début de carrière assez médiocre dans l'armée, était le chambellan de Guillaume II de Württemberg, à ne pas confondre évidemment avec l'empereur Guillaume II de Württemberg, qui a été lui aussi le dernier roi de Württemberg.
C'est une famille catholique, profondément catholique. Il a une éducation, j'allais dire, il a une jeunesse assez particulière. D'abord, c'est un fils jumeau. Il perd son frère quelques jours.
Le jour même de sa naissance.
Voilà. Le jour même de sa naissance. Et il vit un peu sous la coupe de deux autres frères.
Oui, c'est une jeunesse un peu particulière pour au moins deux raisons. Il a effectivement deux autres frères qui jouent un rôle très important dans sa vie, Berthold et Alexandre, qui sont les deux aînés et qui l'entraînent toujours plus haut et très vite dans les préoccupations intellectuelles qui sont les leurs. Et le deuxième élément passionnant de cette jeunesse, c'est que la mère de Stauffenberg, alors que le père de Stauffenberg était un homme très classique, sa mère était passionnée de poésie, de littérature et correspondait correspondait notamment très régulièrement avec le poète Rilke. Donc dès son enfance, il a été bercé dans la grande tradition culturelle allemande et sa mère raconte dans un petit journal où elle notait l'évolution de ses enfants que dès l'âge de 6 ans, il récitait la grande ballade de Goethe, Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, qui chevauche si tard dans la nuit.
Il y a un autre élément qui est très important à cette époque, c'est tout simplement la Première Guerre mondiale. C'est un enfant qui voit la fin d'un monde.
Oui, c'est l'expérience fondatrice de Stauffenberg. Jusqu'en 1918, donc jusqu'à la chute de l'Empire allemand, Stauffenberg mène une vie de jeune homme privilégié. Il était destiné à faire partie des heureux de la Terre et pour lui, la guerre, finalement, c'est de l'héroïsme en image d'épinal. Le grand choc, c'est la chute de la monarchie. Parce que non seulement c'est la chute de l'Empire, c'est la chute d'un roi que la famille avait l'habitude de servir, mais c'est surtout le chaos en Allemagne, la défaite, la peur des rouges et la désorganisation économique. Et sur la peur des rouges, je crois qu'il faut vraiment se rendre compte de ce que ça signifiait. Il est né en 1907, donc pour un enfant qui avait 11-12 ans, ce sont les communistes, les spartakistes dans les rues de Berlin. C'est le putsch, c'est un putsch des soviets en Bavière. C'est ce que sa mère appelait la battue aux aristocrates, c'est-à-dire un de ses oncles qui a été fusillé à titre d'otage par les soviets de Bavière. Donc sa jeunesse se découvre dans l'angoisse et dans la peur du communisme.
Vous citez une dissertation qui date du 24 janvier 1923, alors qu'il a 16 ans, et c'est une dissertation qui est très révélatrice de ce personnage avec des valeurs, dans un monde de chaos, puisqu'en 1923, c'est l'occupation de la Ruhr, et il y a des troubles intérieurs en Allemagne d'une grande importance.
Oui, ce texte, on a eu la chance qu'il soit préservé, c'est effectivement une dissertation qui lui avait été demandée de faire sur le thème « Que veux-tu devenir ?» plus tard, et il explique que ce qui importe avant tout, c'est de servir, donc déjà cette notion de service qui est essentielle, et il explique que l'on doit être au service de la société, au service de l'Allemagne éternelle, et qu'à quelques places que l'on se trouve, on doit la servir dans l'esprit de la culture allemande. Et à cette époque-là, il rêve d'être architecte, et il explique qu'il veut inscrire dans la pierre ce qui est le génie allemand.
Alors, il y a un autre personnage qui est incontournable concernant Stauffenberg. C'est un poète, c'est Stéphane Georges. Alors, d'abord, qui est Stéphane Georges? Deuxièmement, quelle est l'influence de ce personnage sur lui, mais au-delà, sur ses frères, puisque ses frères sont également touchés par ce poète?
Alors, Stéphane Georg est, à l'Allemagne, le grand poète, l'équivalent de ce qu'en France on appelle le grand écrivain. L'Allemagne est un pays de poètes et il est très oublié aujourd'hui, mais dans les années 20, il est le grand poète allemand. Il a commencé comme poète symboliste proche de Mallarmé. Il a fréquenté le poète à Paris. Il a traduit ses œuvres en allemand. Et puis, il a glissé vers un symbolisme mystique développant les théories du service, de l'héroïsme qui se situe dans le verbe et une forme de mythologisation de la réalité où seul le verbe et les arrière-mondes prennent leur sens. C'est une pensée héroïque, c'est une pensée mythique, c'est une pensée chevaleresque dans laquelle les frères Stauffenberg vont s'engouffrer, c'est-à-dire les deux frères aînés puis Klaus, sachant que Stefan Georg était non seulement un grand poète, mais avait réuni autour de lui un cénacle, ce qui s'appelait Geheimes Deutschland, l'Allemagne secrète, qui était censé rénover par le verbe et pour une part par l'action un Reich idéal. Et c'était un cercle très large, puisqu'on y trouve aussi bien des gens comme les frères Stauffenberg que le grand historien Ernst Kantorowicz.
C'est une forme de romantisme ?
Tout dépend comment on définit le romantisme. C'est une forme de romantisme si on considère que le rêve et la réalité se confondent et que le verbe à lui seul peut être un succès donné à l'action.
Alors précisément, l'engagement de Stauffenberg dans l'armée relève du fait de mêler à la fois le rêve et la réalité, la volonté de l'action.
Oui, c'est l'héroïcisation du réel. Stauffenberg ne se conçoit pas autrement que comme un héros. Il a très tôt le sentiment de son niveau. Il a très bons résultats scolaires et universitaires, mais il a surtout une aura évidente et il est convaincu dès l'origine qu'il fait partie des élus destinés à jouer un grand rôle au service du Reich allemand. Et donc, son engagement dans l'armée, c'est une manière de servir, sachant, et c'est important, que ce n'est pas un militaire à culotte de peau, si je peux employer l'expression, c'est-à-dire un fanat de la chose militaire. Pour lui, c'est une manière de servir, mais il n'est pas la caricature de l'officier allemand à monocle. Ce qui l'intéresse, c'est un moyen pour l'action, pour son pays.
Il est nettement au-dessus de la moyenne ?
Oui, il est nettement au-dessus de la moyenne et par ses compétences intellectuelles, quand on voit les poèmes qu'il écrit, quand on voit les échanges culturels qu'il a avec Stefan Georg notamment, c'est quelqu'un qui vit dans la littérature, il en est imprégné, il en est habité et ça se manifeste aussi, et c'est là où il est talentueux, c'est dans ses notes et dans les notations qu'il obtient au 17e régiment de cavalerie de Bamberg ou à l'école de guerre ensuite à la Kriegsakademie, il est toujours noté premier ou deuxième et il fait partie du tout petit nombre d'officiers qui recevront à la fin des années 20 le sabre d'honneur des jeunes lieutenants, où il n'y en a eu que 22 pour l'ensemble du pays cette année-là. Donc oui, c'est un officier exceptionnel et une intelligence qui dépasse celle de ses camarades, qui en étaient très conscients d'ailleurs et qui le disaient.
C'est un personnage très pragmatique.
C'est à la fois, et c'est le côté attachant du personnage que j'ai essayé de montrer dans mon livre, et étonnant, c'est que c'est à la fois un grand rêveur, un grand poète, qui récite au milieu de ses hommes un poème de Stefan Georg et qu'il scande, et qui en même temps est capable de prévoir un plan d'approvisionnement en mortier, et il a été un de ceux qui ont remis sur pied une artillerie mobile allemande.
Alors comment notre héros va accueillir la montée du nazisme, c'est ce que je vous propose de voir Jean-Louis Thiériot après cette première pause. À tout de suite.
Homme politique, écrivain, journaliste et même rugbyman, retrouvez le parcours exceptionnel d'Arthur Comte, un homme libre raconté par sa fille Dominique Bonnat. Entre les couloirs de l'Assemblée ou de l'ORTF, plongez dans la culture catalane. Téléchargez dès à présent l'émission consacrée à Arthur Comte sur canalacademy.com.
Je reçois Jean-Louis Thiériot, historien, qui vient de publier aux éditions Perrin une biographie de Stauffenberg qui fut à la tête de la conjuration contre Hitler, l'attentat donc du 20 juillet 1944. Alors nous avons un peu placé notre personnage et vraiment c'est bien l'intérêt de votre livre, entre autres, c'est que vous avez voulu vraiment montrer la vie d'un personnage, avant même les fameux faits de 1944.
C'est ce qui m'a intéressé, c'est un cheminement, c'est-à-dire de comprendre comment un jeune officier, un jeune aristocrate, un jeune chrétien allemand a été traumatisé par la guerre de 14 et le diktat de Versailles, comment il a pu succomber très largement, n'en déplaise aux hagiographes, aux sortilèges du nazisme, et comment ensuite il est entré en résistance.
Alors justement, tel que vous l'avez présenté, à la fois rêveur, mais aussi très pragmatique, ayant un sens de l'action, on se dit que c'est un personnage qui va accueillir de manière assez idéale le nazisme. À un moment, vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage qu'il attend un homme providentiel.
Oui, et là, c'est l'héritage aussi du poète Stefan Georg qu'on évoquait précédemment. C'est le culte du héros et de l'homme providentiel qui peut et va peut-être sauver l'Allemagne.
Parce qu'il n'est pas réactionnaire, en fait. Dans votre livre, à vous lire, on a l'impression le fait de retourner en arrière, j'allais dire à un retour des monarchies, il n'y pense pas alors qu'il est issu d'une famille catholique, alors que son père était proche du roi du Württemberg.
Oui, je crois que je nuancerais. C'est-à-dire qu'il est clair que quand il s'est engagé dans l'action politique et dans la résistance, c'est-à-dire dans les années 40, là, effectivement, il a bien eu conscience qu'il ne pouvait s'agir de restauration, mais il s'agissait de faire quelque chose d'autre. Dans les années 1920-1930, quand il est jeune officier, il rêve d'un retour de la monarchie. Maintenant, lorsque Hitler arrive au pouvoir, je pense que au fond de lui-même, il voit un peu, comme beaucoup d'Allemands d'ailleurs, Hitler comme le Monk qui éventuellement serait capable de rétablir la monarchie en Allemagne. Et Hitler, avec le génie diabolique qu'on lui connaît, avait su jouer sur tous les tableaux. Et il ne faut pas oublier que lors de la fameuse journée de Potsdam, sur laquelle on reviendra peut-être, mais qui est le jour où Hindenburg, quelques jours après l'appel d'Hitler à la chancellerie, au cours d'un office dans l'église de la garnison, d'une certaine manière, Hitler était adoubé par Hindenburg. Et qui était présent ce jour-là en uniforme de hussard de la mort ? Le Kronprinz, le prince héritier, le fils de Guillaume II. Donc cette dimension-là a pu jouer, même si c'est à la marge. Maintenant, ce qui est évident, c'est que Hitler, lui, est apparu comme l'homme providentiel, car finalement, il promettait de rendre à l'Allemagne tout ce qu'elle avait perdu, sa fierté nationale, sa prospérité économique qui avait été définitivement atteinte par les réparations, par la crise de 1929, par tout ce que l'on connaît. Et puis, il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les années 20, l'Allemagne était traversée de toutes sortes de courants intellectuels, notamment le mouvement néoconservateur avec des gens comme Müller van der Broek ou Ernst Jünger, même à ce moment-là, ou Oswald Spengler. Et il en était, Stauffenberg en était très proche. Stauffenberg détestait le capitalisme, l'américanisme. Il rêvait d'une société d'ordre, d'une société de caste. Et donc ce discours nazi disant une société, d'une certaine manière, une société sans classe, avec l'union du patronat et des syndicats dans une union allemande pour le travail, lui convenait tout à fait. Enfin, et c'est un élément qui, je crois, est essentiel et qui résulte de la personnalité poétique et littéraire de Stauffenberg, il y a incontestablement une esthétique du nazisme. Les cathédrales de lumière de Nuremberg avaient quelque chose de frappant, de saisissant. Léon Blum ne disait pas autre chose quand il disait « le socialisme est une morale, le fascisme une esthétique ». Et il est clair que Stauffenberg a été séduit par cette beauté sauvage, mais cette beauté qui pouvait sortir de certaines cérémonies nazies et auxquelles il a clairement succombé.
Alors vous datez, j'allais dire, ses premiers doutes, mais ce sont juste des prémices ou un prémice de 1934, alors qu'on lui demande de poser, qui servent de modèle à la gloire de l'ASA.
Oui, alors c'est un de ses amis du cercle de Stefan Georg, Franz Mennert, qui lui avait demandé de poser en uniforme de SA pour un monument à la gloire de l'ASA. Et là, Stauffenberg refuse en disant « je ne me laisserai pas immortaliser en tenue de SA ». Pourquoi ? Les SA, il ne faut pas oublier, c'était l'aile de gauche, si on peut dire ainsi, du parti national-socialiste, dans lequel il ne faut jamais oublier qu'il y a national, mais qu'il y a aussi socialisme. Et cette aile gauche, c'était des gens comme Röhm, comme Gregor Strasser, comme ces gens-là. Et c'était très souvent des déclassés qui avaient trouvé dans ces uniformes bruns l'occasion de donner un peu de poids et d'épaisseur à leur existence. Et c'était quand même très largement une forme de racaille qui appartenait à ce mouvement SA. Et donc, lui, le grand seigneur aristocrate militaire, membre de la Wehrmacht, n'allait pas accepter d'y être assimilé. Par ailleurs, dès cette époque-là et depuis les années 30, les SA étaient d'une violence extrême dans les rues et passaient largement comme pour des voyous en Allemagne.
Alors, avant d'approfondir encore une fois les réserves par rapport au nazisme, peut-être s'arrêter sur cette idée, c'est que ce qui sauve Stauffenberg, bien évidemment, c'est son éducation, mais l'idée de caste est très importante chez les militaires, et à chaque fois, on retrouve des groupes, que ce soit le groupe de Stefan Georg, on retrouve son groupe de Bamberg, c'est bien cela, où le secret est bien gardé, où il s'agit de... On fait partie d'un groupe sur lequel, au fond... un état idéologique ne peut pas avoir de prise.
Oui, c'est tout à fait exact ce que vous dites. Il ne faut pas oublier que le Horst Wessellied, qui était le grand chant des nazis, disait « gegen roten Front und Reaktion », contre le front rouge et la réaction. Et la Wehrmacht, avec ses vieilles traditions aristocratiques, militaires, avec un esprit de caste incroyable, il ne faut pas oublier que les tribunaux d'honneur ont existé jusqu'en 1914. Les duels d'honneur se pratiquaient encore dans les années 20. Ne pouvaient pas accepter d'être soumis à autre chose qu'à l'honneur de leur corps. Surtout dans un régiment comme celui auquel appartenait Stauffenberg, qui était le 17e régiment de cavalerie de Bamberg, l'un des plus prestigieux pour les familles catholiques d'Allemagne, où on est d'un régiment comme on est d'une enfance, pour paraphraser Saint-Exupéry. Et la parole du corps fait qu'on reste entre soi, on ne trahit jamais un secret du corps, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ensuite les secrets seront finalement très bien gardés. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que très vite, Hitler va se heurter aux militaires, qu'il trouvera toujours trop timorés, qui voulaient réarmer, mais qui ne voulaient pas des aventures militaires, donc ils mesuraient le risque. Et c'est notamment un tout petit peu plus tard l'élimination des généraux von Fritsch et von Blomberg, qui décapitent d'un seul coup la vieille caste militaire qui était l'héritière de la Reichswehr et de l'armée impériale, au profit d'hommes qu'il contrôle beaucoup plus, notamment le général Keitel, qui deviendra chef de l'OKW, de l'Oberkommando der Wehrmacht, et que les officiers de tradition appelaient Keitel la Keitel, c'est-à-dire le laquais.
Comment réagit-il à la persécution des Juifs, hein, qui commence dès 1933, finalement ?
Alors, au départ, je ne pense pas qu'il en soit, enfin, qu'il, en tout cas, il ne mesure pas l'ampleur. D'ailleurs, c'est un processus qui s'est étalé dans le temps. Certainement, il n'était pas antisémite, ou en tout cas, il ne venait pas d'une famille antisémite. Et un de ses jeunes camarades de classe, donc là, ça remonte aux années de guerre, se rappelle qu'alors qu'il était juif, et c'est un témoignage important, puisque c'est quelqu'un qui s'est ensuite engagé dans la Haganah, l'armée israélienne avant de Tsahal, raconte qu'il était reçu chez Stauffenberg et que lui était très flatté en tant que juif d'être reçu alors que d'autres camarades chrétiens n'étaient pas reçus dans une aussi bonne famille. Donc il n'y avait pas de fond antisémite. Maintenant, la découverte de la radicalité de l'antisémitisme nazi, c'est un peu avec les lois de Nuremberg, même s'il ne les a probablement pas lues, parce que son frère Alexander était fiancé à et a épousé une femme, Melita Schiller, qui était partiellement juive. Donc il en a découvert la cruauté, même si ce mariage a quand même pu se faire. Et puis il a surtout découvert la réalité de cet antisémitisme au moment de la nuit de cristal et de ses pogroms à travers toute l'Allemagne en 1938. Et là, ce jour-là, il dit à un de ses camarades de régiment, l'Allemagne a commis aujourd'hui des choses qui souilleront à jamais le blason de l'honneur allemand. Donc le vrai révélateur de la dimension violente de l'antisémitisme nazi, je pense que c'est la nuit de cristal. Par ailleurs, et c'est un point important, il n'avait pas lu Mein Kampf, et ça, on en a la preuve, ce qui prouve bien qu'il est très difficile de refaire l'histoire a posteriori. On part du principe que tous les Allemands savaient le programme génocidaire d'Hitler. Dans le cas de Stauffenberg, clairement, il n'avait même pas lu Mein Kampf. Mein Kampf, d'ailleurs, ne parle pas de génocide explicitement. Et surtout, il dit à sa femme, donc au moment où il prépare l'école de guerre, « Va m'acheter Mein Kampf, et surtout dans une édition bon marché, car ça n'a aucun intérêt. »
Alors, il n'est pas antisémite, d'éducation également, parce que vous n'avez pas dit, mais dans sa famille, l'antisémitisme n'avait pas droit de cité. Et il n'était pas belliciste non plus. En mai 1939, il dit à Rudolf Farner, le fou furieux veut faire la guerre. C'est une idée aussi importante, c'est-à-dire que, alors que la guerre n'est pas encore lancée, lui, il remet en cause cette idée de guerre. Pourtant, il fait son devoir.
Oui, mais comme la plupart, l'un et l'autre, d'ailleurs comme la plupart des officiers supérieurs allemands, c'est-à-dire que tout le monde pensait qu'une guerre sur deux fronts à la fois à l'ouest et à l'est, avec la France qui était encore le grand vainqueur de 1914, était une folie militaire. Donc il n'avait pas confiance dans l'issue de la guerre. Maintenant, quand on est officier, on porte l'épaulette, on assume et on va jusqu'au bout. Donc oui, il a fait son devoir, mais c'est vrai qu'il était réservé et sur les buts de guerre à partir du moment où l'Anschluss avait été proclamé, où les Sudètes avaient été rattachés au Reich, il estimait qu'il n'y avait plus aucune raison de faire la guerre contre quiconque.
Alors, nous arrivons donc à cette période de guerre. Il y a un chapitre très important de votre ouvrage qui s'appelle « Le choix d'Antigone ». Il y a une véritable réflexion, j'allais dire philosophique, chez Stauffenberg sur ce qu'on va appeler un tyrannicide.
Oui, Stauffenberg n'est pas de ceux qui se sont engagés sur un coup de tête dans la résistance. Stauffenberg n'est pas de ceux qui estiment sans importance le serment qu'ils ont prêté de rester fidèles au Führer. Donc il a fallu tout un cheminement. Et ce cheminement, il est double. Il commence par une réflexion, il est triple on va dire, il commence par une réflexion sur la guerre juste au sens où la définit la doctrine de l'Église et en particulier saint Thomas d'Aquin. Et pour faire court, la notion de la guerre juste, c'est un objectif légitime, un pouvoir légitime, l'impossibilité d'avoir d'autres solutions et que les gains espérés soient supérieurs aux dommages subis. très vite, il va se rendre compte, à partir de 1940-41, que ce n'est plus le cas, et notamment dès l'invasion de l'Union soviétique, au lieu de faire ce que le bon sens commandait, c'est-à-dire d'essayer de s'allier aux Ukrainiens en particulier qui avaient été victimes de la décolakisation, qui avaient été victimes du stalinisme, en créant une armée russe blanche qui rétablirait une Russie libre. Les nazis décident, étant donné leurs obsessions raciales, d'écraser ces populations et de ne pas s'en faire des alliés. Et à partir de ce moment-là, la solution politique disparaît et donc la guerre est par définition injuste et illégitime. Ce n'est plus une guerre contre le bolchevisme, c'est une guerre qui se nourrit d'elle-même. Ça, c'est le premier cheminement. Le deuxième élément de sa réflexion, c'est la violence de l'antisémitisme qu'il ne découvre vraiment qu'à ce moment-là. Lorsque des officiers du front lui racontent par le menu les exécutions des Ersatzgruppen et des SS sur les arrières de la Wehrmacht. On pense au massacre des Juifs de Borisov ou Helmut James von Moltke du cercle de Kreisau qui lui explique la solution finale, ou en tout cas qui lui explique que les Juifs sont gazés à Auschwitz. Donc ça, évidemment, ça le bouleverse profondément. Et puis, face à ça, il est convaincu qu'il faut faire quelque chose et que pour faire quelque chose, il faut déposer Hitler. Maintenant, il y a l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est est-ce qu'un chrétien a le droit de... D'abord, est-ce qu'un soldat a le droit de se rebeller contre son chef et est-ce qu'un chrétien a le droit de verser le sang ? Et là, pour arriver à cette conviction, il s'appuie sur saint Thomas d'Aquin, qui estime qu'un pouvoir illégitime, un pouvoir qui sort de la notion d'état de droit au sens où l'entend saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire la légitimité des fins et des moyens, peut être déposé au nom de la théorie du moindre mal par des moyens violents. Et c'est par une évolution spirituelle et par une évolution théologique qu'il en arrive à cette conclusion. Et dans les discussions qu'il a avec un certain nombre de personnes qui rentreront dans la conjuration, notamment des protestants, puisqu'il est quand même l'un des seuls catholiques de la conjuration, le plus grand nombre étant protestant, il développe cette argumentation en s'appuyant aussi sur un texte de Luther sur le tyrannicide.
On a retrouvé dans ses papiers une encyclique, celle de Pie XI, qui a été préparée par Eugenio Pacelli, le futur Pie XII, c'est « Mit brennender Sorge ».
Oui, c'est très intéressant aussi. Lorsque la Gestapo a fouillé ses papiers, elle a trouvé deux documents qui prouvent le rôle qu'a joué sa réflexion chrétienne. C'est l'encyclique Mit brennender Sorge qui expliquait que tout ce qui sacralisait une race était contraire à l'ordre naturel. Et ça, le rapport Kaltenbrunner, la Gestapo l'a retrouvé souligné de sa main. Et on a également retrouvé des encycliques de Monseigneur von Gallen, l'évêque de Münster, le lion de Münster, qui avait été connu pour s'être opposé violemment cher aux nazis quant à l'extermination des malades mentaux.
Alors, comment va se mettre en place cette conjuration et ces attentats, parce qu'il y aura plusieurs tentatives d'attentats, c'est ce que nous allons voir après cette dernière pause.
Quelles seront les énergies exploitées d'ici 2050 pour contrer la pénurie de pétrole ? Nucléaire, bois de chauffage, biosphère, géothermie ou encore hydrogène, Bernard Tissot, membre de l'Académie des sciences, nous donne les détails de ces nouvelles énergies du futur sur Canal Académie, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Stauffenberg, qui fut à la tête donc de la conjuration contre Hitler le 20 juillet 1944, donc l'attentat manqué. Je laissais nos auditeurs en disant qu'il n'y avait pas un seul attentat, mais plusieurs attentats. Donc il y a une conjuration qui se met en place. Et alors c'est au-delà de la biographie de ce personnage, c'est un des grands enseignements de votre ouvrage, c'est que Stauffenberg n'est pas un personnage isolé. Stauffenberg, nous le disions, fait partie d'un groupe, fait partie d'une caste, mais il connaît énormément de monde, il a beaucoup de succès, hein, il a monté les différents échelons de l'armée. On a, vous en donnez, j'allais dire, l'organigramme à la fin de votre ouvrage, il y a véritablement des dizaines, on dira même des centaines de personnes qui font partie de cette conjuration.
Oui, Stauffenberg, c'est d'ailleurs ce qui est amusant, ou ce sont les hasards de l'histoire, c'est que Stauffenberg, en tout cas en Allemagne, est resté dans la mémoire collective comme l'homme qui a tenté d'assassiner Hitler. Et il est resté comme cela dans l'histoire, car il a failli réussir, et ça s'est joué à un cheveu. Mais effectivement, il n'a pas été le premier résistant à l'intérieur de ces cercles conservateurs. Et il s'est greffé sur des organisations qui existaient déjà et qu'il connaissait par des liens de famille, par des liens d'amitié, justement par cet esprit de caste. Et l'un des personnages essentiels de cette conjuration, en tout cas au niveau militaire de ce groupe, et qui était des opposants dès 1938, c'est Henning von Tresco, qui était chef d'état-major du groupe d'armée centre et qui, tout au long de la guerre, dès 1942-1943, s'est efforcé de multiplier les tentatives d'attentat. Certaines ont failli réussir. En mars 1943, par exemple, il y eut deux tentatives. L'une à l'état-major de Cloug à l'occasion d'une visite d'Hitler sur le front russe. Un certain nombre d'officiers autour de Tresco avaient prévu d'abattre au cours du déjeuner Hitler avec un revolver, et le plan de table avait été fait en conséquence pour que les tirs soient croisés et qu'on soit sûr de pouvoir assassiner Hitler. Le maréchal von Cloug avait plus ou moins donné son accord, à condition que Göring et Himmler soient également présents, puisqu'il estimait qu'assassiner Hitler sans assassiner le chef de la SS et Göring, le successeur désigné, n'avait pas de sens. Et donc, au dernier moment, Cloug s'y oppose. Et le même jour, une solution de repli avait été imaginée, toujours par Tresco, qui était de placer dans l'avion du Führer pour son retour à Berlin une boîte dans laquelle il y avait du cognac, théoriquement destiné à un de ses amis à Berlin, qui était une bombe et qui devait faire exploser l'avion en vol. Et là, tout le monde s'attendait à ce que l'explosion ait lieu, les conjurés étaient actifs. Le problème, c'est qu'il s'agissait d'un détonateur chimique qui a gelé dans l'avion et qui, par conséquent, ne l'a pas fait exploser. Et des expériences comme ça, on en a une dizaine ou une quinzaine. Un certain nombre d'attentats suicides ont échoué. Un aide-de-camp devait l'assassiner. Et exceptionnellement, la réunion s'est tenue sans les aides-de-camp, alors qu'il avait une bombe dans sa mallette. Donc, toute une série d'attentats ratés. Hitler avait vraiment la chance du diable.
Mais au-delà de ce qui est étonnant, et je voudrais qu'on revienne vraiment à cette préparation de la conjuration, il s'agit de tuer Hitler, c'est l'objectif, mais aussi de remplacer Hitler. Et qui dit remplacer Hitler, c'est tout simplement apporter un nouveau gouvernement et se mettre en place tout, j'allais dire, des réseaux politiques et militaires afin d'assurer tout simplement une transition. Vous commencez votre ouvrage, c'est la belle surprise, j'allais dire, de votre ouvrage. Dès le départ, vous montrez l'impact de l'attentat d'Hitler, donc Hitler qui a été annoncé mort en France, au sein du réseau, je dis bien au sein du réseau de la conjuration. Il y a un réseau de la conjuration en France, à Paris, il y a un réseau de la conjuration à Vienne, et ces réseaux donc ont été tenus au courant, il y a des SS qui sont tués. Bref, on a véritablement une toile d'araignée qui entoure Hitler afin de le prendre par surprise, de le tuer et de le remplacer.
Oui, l'expression « toile d'araignée » est excellente. Effectivement, Stauffenberg, c'est ce que je disais tout à l'heure, était tout sauf un homme seul contre Hitler. Et il y avait au moins trois groupes importants qui gravitaient autour de Stauffenberg ou qui étaient autour de Stauffenberg pour cet attentat. Le premier, c'est ce que je qualifierais les conservateurs traditionnalistes, dans lequel on trouve un personnage comme Gördeler, ancien maire de Leipzig, chrétien convaincu, partisan farouche d'une restauration des Hohenzollern. Un ambassadeur comme Ulrich von Hassel, toute une série de gens qui se réunissaient régulièrement, Popitz, Gisevius, et qui se réunissaient régulièrement à Berlin dans ce qui s'appelait la Société du Mercredi et qui passaient leur temps à préparer et a échafaudé des solutions gouvernementales pour l'après-Hitler avec une imprudence certaine, mais qui en même temps ont laissé des documents inestimables. D'abord des projets constitutionnels très intéressants, car il s'agit d'un rééquilibrage entre le pouvoir fédéral et le pouvoir des régions, d'une haute portée éthique. Et il y a surtout Ulrich von Hassel, l'ambassadeur von Hassel, qui a laissé un journal quasiment au jour le jour qui permet de suivre cette conjuration et de voir que parfois elle était très très proche du pouvoir, puisque par exemple quelqu'un comme Popitz est resté ministre des Finances de Prusse jusqu'en juillet 1944. Donc ça, c'est le premier cercle. Il y a un deuxième cercle qui est celui du cercle de Kreisau, que j'appellerais les modernes, qui est autour de trois personnages qui ne sont pas des militaires, qui sont Helmut James von Moltke, Jörg von Wartenburg et Adam von Trotz-Husholz, essayent de réfléchir à l'Allemagne d'après et à la manière de reconstruire l'Allemagne après la fin du tyran, sachant que eux, au départ, ne réfléchissaient pas à l'action, mais pensaient vraiment à comment devait être l'Allemagne après. Et au cours de trois réunions qui se sont tenues à Kreisau, du nom de la demeure de Helmut James von Moltke, ils ont proposé un programme pour l'autre Allemagne. Et ce programme est absolument passionnant à lire. D'abord parce qu'on y sent différentes influences. Il est très riche. Il y a aussi bien donc, des conservateurs comme Trotz-Husholz ou Jörg von Wartenburg, des gens de gauche, des socialistes comme Julius Leber, Leuchner, Mirrendorf, des économistes conservateurs partisans du principe de subsidiarité comme Ludwig Erhard, le futur chancelier du miracle économique allemand. Et tous ces gens-là proposent un programme pour l'Allemagne à venir qui reprend ce que sera après-guerre les grands principes de la République fédérale d'Allemagne. En matière de préambule, il ne faut pas oublier que la République fédérale d'Allemagne a comme préambule aujourd'hui la Grundgesetz, le peuple allemand conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Ce préambule-là, il est dans les textes de Kreisau. Le système institutionnel allemand d'aujourd'hui, qui pour éviter l'instabilité gouvernementale de la République de Weimar, prévoit ce qu'on appelle la motion de défiance constructive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas renverser un chancelier sans le remplacer par un autre, se trouve dans le programme de Kreisau. Donc toute une et l'économie sociale de marché, évidemment. Donc ces gens-là aussi contribuent à bâtir ces projets. Enfin, il y a les militaires autour de Stauffenberg eux-mêmes qui sont le bras agissant. Mais ce qui est passionnant, c'est que ces trois groupes s'amalgament plus ou moins bien, avec des tensions entre eux, mais unis sur l'essentiel, s'amalgament grâce notamment au talent de diplomate de Stauffenberg. Et on retrouvera, après le complot, des projets de gouvernement, donc du gouvernement qui devait faire suite à Hitler, dans lequel le chancelier devait être Gördeler, donc l'ancien maire de Leipzig, et le vice-chancelier Julius Leber, ancien député SPD. Donc ça veut dire que Stauffenberg avait réussi ce miracle de faire siéger dans ce qui serait le gouvernement de l'Allemagne d'après Hitler un ancien membre du DNVP, c'est-à-dire l'aile droite du conservatisme allemand, et des socialistes. C'est extraordinaire comme capacité de synthèse qu'il avait réussi à faire autour de ce complot.
Il y a des contacts avec l'étranger, au-delà des contacts dont je parler il y a deux minutes, des conjurés qui sont à la fois à Vienne ou bien à Paris. Est-ce qu'il y a des contacts avec les Américains ou les Anglais ?
Oui, mais qui ne vont pas très loin. C'est-à-dire que l'un des soucis des conjurés, c'est évidemment de renverser Hitler et de mettre un terme à ce régime monstrueux, mais c'était aussi d'essayer que la guerre se termine le moins mal possible pour l'Allemagne. On sait bien que le désir d'une capitulation sans condition, enfin pas le désir, l'exigence d'une capitulation sans condition n'allait pas leur faciliter les choses, notamment vis-à-vis de militaires hésitants. Donc des gens comme Moltke, comme Adam von Trotz-Husholz, ont pris des contacts avec l'intelligence service ou avec l'OSS, l'ancêtre de la CIA, notamment en Turquie. Et l'existence d'un groupe de résistance est venu jusqu'aux oreilles du président Roosevelt, où Donovan, donc le chef de l'OSS, lui avait transmis l'information qu'un groupe de généraux allemands préparait éventuellement un coup d'État et était prêt à ouvrir le front ouest aux Américains, le cas échéant, si on s'engageait à ce que les Russes n'occupent pas Berlin. Et Roosevelt a demandé que l'on suive, mais sur les recommandations de Donovan ou d'autres, a décidé de ne pas donner suite, de peur notamment, et ça c'est tout à fait important à avoir à l'esprit, qu'à la dernière minute, le pacte germano-soviétique ne se renouvelle. Il ne faut pas oublier qu'à la conférence de Moscou, il avait été décidé que chaque parti devait donner connaissance aux autres parties d'éventuelles négociations qu'on leur proposerait. Et les Américains ont été jusqu'au bout de cette logique. Et en mai 1944, ont informé les Soviétiques des approches dont ils avaient fait l'objet.
Alors, venons-en à l'attentat raté. Vous avez présenté toutes ces tentatives précédemment, et vous montrez un Stauffenberg, vous présentez un Stauffenberg exaspéré parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10 tentatives d'assassinat et elles n'aboutissent pas. Et au fond, il se dit, je vais compter sur une personne, sur moi.
Oui, toute une série de tentatives avait été programmée donc dans les dernières, disons entre avril et juillet 44, et à chaque fois, elle n'avait pas lieu parce que le seul qui avait vraiment accès à ce moment-là à Hitler était le général Stief, qui était dans la conjuration, et à chaque fois, il trouvait un bon prétexte pour ne pas le faire. Donc Stauffenberg prend la décision de commettre l'attentat lui-même, ce qui est extrêmement courageux, puisque le risque était évident. Maintenant, ce qui a deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est qu'on ne l'a pas dit, mais il avait été blessé au cours de la campagne de Tunisie et qu'il était gravement handicapé. Il avait perdu un œil, il avait perdu une main, il n'avait plus que trois doigts à l'autre main et par conséquent, il avait la plus grande peine à amorcer des bombes. Donc c'est très
difficile. Ce qui joue dans l'attentat.
Ce qui joue un rôle essentiel puisqu'il ne peut armer qu'une seule bombe et non pas deux. Donc ça, c'est déjà la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que les fonctions qu'il occupait à Berlin, qui étaient absolument stratégiques, il était chef d'état-major de l'armée de réserve et c'est l'armée de réserve qui, en cas de trouble intérieur, dans le cadre de ce qu'on appelait le plan Valkyrie, avait vocation à exercer l'état d'urgence et donc à prendre le contrôle de la SS et du parti. Donc il était l'homme qui, sous les ordres d'un autre général, Fromm, qui n'était pas dans la conjuration, en tout cas pas vraiment, et c'était bien le problème, devait, depuis Berlin, diriger le coup d'État. Et que ce soit le même homme qui commette l'attentat, qui en même temps dirige les opérations avec un chef qui n'était pas dans la conjuration, c'était d'une extrême difficulté, et ça a été une des raisons de l'échec.
Donc, première tentative, le 15 juillet.
Oui, alors première tentative le 15 juillet où Stauffenberg donc, se rend à la Wolfschanze, la tanière du loup en Prusse orientale avec une bombe dans sa serviette, prêt à faire sauter le Führer. Et là, à la dernière minute, le général Olbricht, qui faisait partie de l'armée de réserve, ne lui donne pas son accord pour exécuter l'attentat, puisqu'il n'y avait qu'Hitler et qu'il n'y avait pas Göring et Himmler. Stauffenberg veut quand même passer outre, mais Hitler a disparu du bunker à ce moment-là et donc il ne peut pas commettre l'attentat. Et c'est là où, sachant qu'un certain nombre de personnes de son entourage ont déjà commencé à être arrêtées et qu'il craint une arrestation, qu'il dit la prochaine fois sera la bonne et ce sera le 20 juillet.
Alors vous présenterez bien d'ailleurs au lendemain de cet attentat, de cette tentative du 15 juillet, le 16 juillet, il prend son petit déjeuner avec un ami. Et vous dites que c'est un moment très important parce que le putsch, même s'il reste celui de toute une organisation, il devient de plus en plus celui des colonels, prêts à forcer la main de leurs supérieurs pour le succès ou pour le symbole. Parce que, et on ne le dira jamais assez, malheureusement, bien sûr qu'il y a des coups bas politiques entre les conjurés, il y a des problèmes de personnes, on se dispute les prébendes de l'après-Hitler alors que les choses ne sont pas faites.
Oui, le cœur du problème est moins là, il y a ce problème-là. Mais les généraux qui sont dans la conjuration vraiment engagés, je pense au général Olbricht, je pense au général Feldgebel, je pense au maréchal von Witzleben, je pense au général Beck, ne fléchissent pas, même s'ils peuvent hésiter, et eux ne sont pas durs à convaincre. Lorsque Stauffenberg emploie cette phrase, il pense à d'autres généraux ou à d'autres maréchaux qu'il a essayé de convaincre, je pense à Manstein en particulier, ou à Klug par exemple, qui eux clairement n'ont pas dit non. On sous-entend, on dit finalement, ça serait formidable si quelqu'un d'autre le faisait, mais nous on ne veut pas s'y salir les mains.
Alors, le 20 juillet.
Donc le 20 juillet, c'est effectivement le jour du destin. Stauffenberg est décidé à commettre l'attentat coûte que coûte. Il embarque pour la Prusse orientale en avion depuis Berlin avec son aide de camp, Werner von Haeften. Et l'avion arrive vers 10h du matin en Prusse orientale. Là, les choses se passent très bien au départ. Petit déjeuner avec les officiers de l'état-major. Tout se passe bien. Il était prévu qu'un briefing ait lieu en présence d'Hitler à 13h. Et arrive à ce moment-là une nouvelle impromptue. Mussolini arrive en train spécial et donc le briefing est avancé. Il est à peu près midi et quart quand la nouvelle arrive. Ça change évidemment tout puisque Stauffenberg a beaucoup moins de temps pour amorcer les bombes qui doivent tuer Hitler. Donc il dit qu'il veut changer de chemise pour se présenter proprement devant le Führer. En fait, il s'enferme dans une pièce de service. Suisse et arme les bombes. Il essaye d'armer les bombes. Il parvient à armer la première. On toque à la porte parce que le Führer attend. Il n'a pas le temps d'armer la seconde. Et donc, il y renonce. Et c'est le début de l'enchaînement.
Il y renonce parce qu'il sait, ou en tous les cas, il croit qu'une bombe suffira, parce qu'on lui a dit qu'une bombe suffira.
On lui a dit qu'une bombe suffirait. Il ne pense pas visiblement, mais ce n'est pas un spécialiste des explosifs, qu'en laissant les deux bombes dans la sacoche, la deuxième risque d'exploser par capillarité, par l'effet de la première explosion. Et parce qu'il croit surtout que la réunion aura lieu dans le bunker souterrain d'Hitler, où effectivement l'effet de souffle est tel que ce qu'on appelle le blast fait que personne ne pouvait en réchapper. Manque de chance, la réunion se tient dans un baraquement ouvert qui fait que l'effet de souffle est considérablement dilué. Là, il arrive à cette réunion. Il demande à être placé près du Führer en prétextant le fait qu'il était sourd à la suite de ses blessures de guerre. Il est tout près du Führer, il pose la bombe. Malheureusement, la table est extrêmement solide, la sacoche est un peu écartée. Il sort, la bombe explose, il voit le bâtiment voler en éclats, il est convaincu qu'Hitler est mort, d'autant qu'un corps sort porté sur une civière avec la gabardine du Führer. Manque de chance, le Führer n'est pas mort. Il a été seulement légèrement blessé.
Mais alors, malgré cela, à un moment, c'est ténu, mais vous laissez entrevoir finalement l'espoir qu'il croit que les choses peuvent se faire en dépit de l'échec.
Oui, d'abord, il ne se rend pas compte au début de l'échec. C'est-à-dire que quand il quitte Rastenburg, la Prusse orientale, il est convaincu qu'Hitler est mort. Et quand il arrive à Berlin, au début, il est à peu près 16h30, il croit qu'Hitler est mort. Ce n'est que progressivement qu'il se rend compte que ce n'est pas le cas. Mais étant donné que le plan, le programme, l'opération Valkyrie prévoit que l'armée prenne le pouvoir en cas de trouble intérieur, sans donner de détails sur le pourquoi et le comment, la machine se met en route et il faut très peu de choses pour que cela ne réussisse pas. Et il y a des endroits où ça réussit, c'est-à-dire qu'à Vienne, par exemple, où le commandant de la garnison de Vienne, qui n'aime pas les nazis, mais qui n'est pas dans la conjuration en tant que tel, même si son entourage l'est, met en place le plan Valkyrie dès qu'il apprend qu'il est mis en œuvre, fait arrêter l'ASA, les SS et la Gestapo. Et pendant quelques heures, Vienne est libérée de la peste brune. C'est la même chose à Paris, où là, le général Schopenhauer, qui est de la conjuration, mais qui au début croit aussi qu'Hitler est mort et qui ensuite sait qu'il ne l'est plus mais estime que de toute façon le vin est tiré et qu'il faut le boire, fait arrêter dans la soirée les membres de la SS et de la Gestapo à Paris, notamment le chef de la SS qui se trouvait à ce moment-là dans un bordel et qu'on va chercher dans ce lieu de tolérance pour l'amener sous bonne garde au siège de la SS.
Donc en fait, les choses peuvent se faire. Mais finalement, Hitler et surtout certains généraux reprennent vite leurs esprits. Vous montrez qu'il y a un tournant, c'est Goebbels, je crois.
Oui, le tournant, c'est quand la garnison de Berlin, qui était dirigée par un général de la conjuration, le général von Asm, qui avait sous ses ordres un major, le major Reimer, retourne sa veste parce qu'il est introduit chez Goebbels, que Goebbels lui passe au téléphone
Hitler,
et que Hitler demande à Reimer avec sa voix caractéristique, reconnaissez-vous cette voix, Major Reimer ? Reimer lui répond : oui, mon Führer. Et à partir de ce moment-là, il refuse de continuer à encercler le quartier des Ministères et il marche sur le Bendlerblock, le quartier général de la conjuration. C'est le moment où tout bascule. Et étant donné que les conjurés, qui étaient des officiers d'état-major et qui pouvaient parfois quand même manquer de sens pratique, n'avaient pas prévu de moyens de se défendre au Bendlerblock, la messe, si vous me pardonnez l'expression, était dite et l'affaire était perdue.
Alors je laisse nos auditeurs voir au fond ce qu'il s'est passé après, même si on se doute les nazis n'étaient pas précisément des poètes et qu'en conséquence, et les familles et les amis et évidemment toute la conjuration ou quasiment toute la conjuration sera condamnée à mort. Je voudrais qu'on termine sur une question qui au fond est assez... pourquoi le 20 juillet 44 ? Est-ce que le coup d'État avait un sens alors que les nazis étaient... proche de la défaite. On savait, après le débarquement, que le nazisme allait tomber.
Dans l'intérêt, purement national allemand, c'était limité. En tout cas, c'est bien la preuve que les conjurés ne cherchaient pas à négocier quoi que ce soit. La guerre était perdue, c'était fini, et le fait que la conjuration réussisse n'aurait probablement pas changé grand-chose de ce point de vue-là. En revanche, en termes de tragédie humaine et destruction, ça aurait tout changé. Il ne faut pas oublier que la dernière année de guerre, entre le 20 juillet 1944 et avril 1945, c'est près d'1,5 million de Juifs qui seront exterminés. C'est 4 millions d'Allemands qui mourront au combat ou sous les bombes, et ce sont des villes entières qui seront rasées. Donc d'un point de vue de stricte humanité, la réussite du coup d'État et l'arrêt des hostilités auraient été essentielles. Par ailleurs, ça aurait certainement permis d'éviter la partition de l'Europe, puisque les Américains auraient de toute évidence été à Berlin bien avant les Russes.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Louis, d'être revenu au micro de Canal Académie pour nous présenter ce personnage fascinant. Et j'encourage la lecture de votre biographie, donc consacrée à Stauffenberg aux éditions Perrin. Et je renvoie également nos auditeurs aux différentes émissions que nous avons enregistrées ensemble, que cela soit sur Margaret Thatcher ou bien sur François Ferdinand d'Autriche. Je rappelle également que les auditeurs peuvent aller voir le film Valkyrie. Quel a été votre avis sur le film ?
Un excellent film d'action américain sans grosses inepties historiques, ce qui est un peu le risque avec ce genre de film. Donc je pense qu'il mérite d'être vu. C'est un bon film et le personnage de Stauffenberg est relativement bien rendu, même si on n'entre pas dans les nuances.
Alors, pour avoir une vision complète, je ne peux que vous inciter également à vous procurer le Figaro hors-série sur le sujet. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.
Merci à vous.